On s'en va ensemble dans Daniel 9. Daniel 9. Un livre spécial, Daniel, avec des sections apocalyptiques, tout ça. Je reviens sur tout ça un peu tantôt. Mais simplement pour se remettre dans le bain de Daniel 9, parce que ceux qui étaient là la semaine dernière, vous le savez, les autres peut-être pas, on passe deux semaines dans Daniel 9. Dimanche dernier, puis cette semaine. On voit ça dans un ensemble parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de matière. Et il s'agit d'une prière de Daniel. Alors, on a des choses à apprendre, évidemment, sur la prophétie incroyable qu'on va regarder ensemble ce matin, mais j'ai voulu le cadrer davantage sur ce qu'on peut apprendre sur la prière à partir de ce livre-là. Et donc, lorsqu'on arrive dans le passage que Luc va nous lire, dans Daniel 9, 20, d'accord, on va commencer au verset 20, eh bien, Daniel est encore en train de prier. Vous allez le voir, il commence avec ça. Et puis, pendant qu'il est en train de prier, Dieu répond à sa prière. D'une manière assez extraordinaire, avouons-le, l'ange Gabriel, bon, on apprend que c'est un ange, même s'il l'appelle un homme, parce que les hommes qui volent sont assez rares, à part dans Marvel Comics. Mais on n'ira pas là ce matin. Alors l'ange Gabriel s'en vient en volant très rapidement. Il s'en vient le rencontrer et il s'en vient lui donner une explication. L'ange Gabriel va lui apprendre que dès le moment où il a commencé à prier, Dieu a entendu sa prière et que lui a été envoyé pour l'aider à comprendre ce qui va se passer. Dieu a entendu la prière de Daniel en faveur de son peuple, parce que le peuple d'Israël est en exil à ce moment-là. Ils ont été déportés, ils ont été vaincus par des nations environnantes, beaucoup plus grandes, beaucoup plus puissantes. Après s'être eux-mêmes rebellés envers Dieu, Dieu a permis cela. Et maintenant, ils sont en exil. Et Daniel, en lisant le prophète Jérémie, a compris que cet exil arrive à son terme. 70 ans avait annoncé le prophète Jérémie. Donc, l'exil arrive à son terme et Daniel est en train de supplier Dieu, d'honorer sa parole. Et donc, Daniel vient collaborer avec Dieu dans ce moment-là pour intercéder en la faveur de son peuple. Et donc, Daniel attend cette délivrance-là. Maintenant, Dieu va répondre à sa prière d'une manière particulière. Puis vous allez voir qu'on a beaucoup à apprendre pour notre vie de prière à nous aussi. Dieu va répondre à la prière de Daniel en disant, « Daniel, c'est bon. » C'est bon, l'exil arrive à son terme. Mais je veux te faire connaître, je veux te révéler des choses plus grandes encore. Des choses plus grandes qui sont à venir. Une réponse à ta prière qui va dépasser tout ce que tu peux imaginer, en grandeur, en beauté, en majesté, mais qui va aussi impliquer davantage de souffrance encore pour Israël. Parce que si Israël est sur le point de revenir de son exil à Jérusalem, en réalité, Israël ne va pas tout à fait rentrer à la maison encore. On va attendre un bon bout avant ça. Et donc, on va apprendre ce matin, en écoutant la lecture de la parole, on va apprendre à prier comme Daniel. Écoutons la lecture de la parole de Dieu.
Donc, comme Yannick le mentionnait, on va prendre le passage de ce matin tiré dans Daniel, chapitre 9, versets 20 à 27, édition, nouvelle édition de Genève. Donc, Daniel, au chapitre 9, versets 20 à 27. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines, et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché, il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur.
On va se courber ensemble dans un mot de prière. Bien, Père éternel, on vient dans ta sainte présence ce matin avec la joie de se retrouver ensemble, la joie d'être en Église, Seigneur, d'être là les uns pour les autres, pour prendre soin les uns des autres, mais aussi pour tourner nos regards vers toi, Seigneur. Pour écouter ta parole, pour te laisser, Seigneur, nous faire connaître ta grandeur, ta beauté, tes desseins, tes projets, Seigneur. Pour apprendre à prier. Prier comme Daniel, Seigneur, qui est un homme âgé lorsqu'on le trouve dans cette vision et qui a été un homme de prière tout au long de sa vie d'une manière absolument extraordinaire. Seigneur, tu connais nos cœurs, c'est l'aspiration de nos cœurs d'être en communion constante avec toi, de devenir un peuple, une famille de prière qui sait écouter, qui sait te rencontrer, qui sait intercéder, Seigneur, pour nos enfants, pour notre famille, pour nos proches, pour le Québec, Seigneur, qui apprend à comprendre ta parole et à entendre ce que tu veux nous dire, Seigneur. Alors, je te demande de venir nous rencontrer ce matin. Je te prie, Père, d'être avec moi, avec mon cœur, avec mes paroles. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. La semaine dernière, je vous ai partagé cette citation de John Owen. C'est à sa vie de prière, seul devant Dieu, qu'on peut mesurer un homme ou une femme. On veut grandir dans notre vie de prière, n'est-ce pas? On veut grandir dans notre intimité avec Dieu. Est-ce que vous avez ce désir-là dans votre cœur d'être plus près de Dieu? Est-ce que c'est un désir dans votre cœur? J'espère que oui. J'espère que vous soupirez après cette intimité avec Dieu que vivait Daniel constamment, jour après jour. 3 fois par jour, il allait prier et rencontrer Dieu. Et ce que ça faisait de lui, un homme qui traversait les épreuves de la vie avec des fardeaux, avec des choses sur son cœur qu'il portait, mais en même temps avec une paix, avec une constance, avec une sérénité absolument extraordinaire. Et donc, Daniel arrive ici, je ne dirais pas au terme de sa vie, mais il est vraiment âgé, il a passé 80 ans. Et Daniel a vu les rois passer. Certains rois très prétentieux, très arrogants, des rois qui ne connaissaient pas Dieu, des rois qui ont appris à connaître Dieu dans une certaine mesure, ce n'est pas toujours clair jusqu'où, mais clairement des rois qui ont appris que le Dieu de Daniel est le Dieu suprême. Daniel était en relation quotidienne avec ce Dieu-là. Et c'est ça qu'on veut, chacun d'entre nous. Daniel expérimentait avec Dieu un véritable dialogue. Un dialogue, c'est quoi? C'est lorsque deux personnes se rencontrent, se parlent et s'écoutent mutuellement. Tout à l'heure, j'ai lancé la blague. Je ne suis pas sûr que c'est une blague, mais j'ai béni Dieu pour les camps chrétiens. Mais la vérité quand même, c'est qu'Esther et moi, on s'est dit, on s'en revenait de Bethel ensemble, puis on avait déposé Bastien, puis j'ai dit à Esther, OK, c'est quoi que tu as comme attente depuis quelques semaines? On anticipe toutes les deux ce moment-là où pendant 1 mois, 5 semaines, on va être juste nous deux ensemble, tout ça, puis c'est sûr, tu sais, dans ce temps-là, tu as toutes sortes de petits projets qui commencent à se former. Puis là, tu dis, ah, on pourrait faire ça, je vais avoir un peu plus de temps, je vais aller faire ça, ça, ça. Fait que j'ai dit, on se partage ça, puis on essaie de marier ça aussi pour qu'on puisse avoir du bon temps ensemble. Et puis, c'était pas pour flatter Esther, c'est pas une de mes grandes qualités, la flatterie. Mais j'ai dit à Esther, pour moi, l'objectif le plus important, c'est d'être avec toi. Ça, c'est le plus important. Parce que je suis pas toujours un gars qui sait très, très bien écouter. Et là, je vais avoir du temps pour le faire, pour qu'on dialogue ensemble, pour qu'on ait du temps ensemble. Donc, c'est quoi un dialogue? C'est deux personnes qui décident d'être là l'un pour l'autre, qui se parlent et qui s'écoutent. Et c'est ça qu'on voit dans cette prière-là de Daniel. C'est un véritable dialogue avec Dieu, où Daniel a écouté Dieu premièrement en lisant sa parole. Il a très bien entendu ce que Dieu avait à lui dire. Il a répondu à cela en allant dans la prière. Et là, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que Dieu va lui répondre à nouveau à travers un ange, d'accord? Mais on veut apprendre à vivre ce dialogue-là avec Dieu. Et Daniel peut nous enseigner cela. Parce que Daniel aimait Dieu, connaissait vraiment son Dieu, savait dialoguer avec lui, et Dieu aime en retour quelqu'un qui vient comme ça dans la prière. La semaine dernière, on a intitulé l'exposé « Prière d'un homme qui écoute Dieu ». Et cette semaine, « Réponse d'un Dieu qui aime l'homme de prière ». C'est vraiment frappant dans le passage, je vais prendre ma Bible. Verset 20-21, je m'excuse. « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. » Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Au moment de l'offrande du soir, parce que Daniel n'est pas à Jérusalem, il n'y a plus de sacrifice à Jérusalem, mais il respecte ces moments-là. Au moment où, à Jérusalem, quand le temple était là, on faisait l'offrande du soir, Daniel avait cette habitude que c'était son moment de prière du soir. Il priait 3 fois par jour. C'était sa coutume pour garder son cœur à Jérusalem, pour garder son cœur attaché aux choses de Dieu. Daniel avait gardé cette habitude-là d'aller prier au moment de l'offrande du soir. Et il nous dit qu'alors même qu'il est encore en train de parler, pouf, il y a une nouvelle vision et l'ange Gabriel vient s'adresser à lui. L'ange Gabriel vient s'adresser à lui à ce moment-là. Et une des choses qui m'a frappé lorsque j'ai étudié cette prière de Daniel, j'avais besoin que Dieu me rappelle qu'il entend instantanément nos prières. Encore ce matin, j'étais en train de méditer sur ça, puis après ça, je suis allé dans la prière, puis j'avais encore besoin de me le rappeler. Trop souvent, je vais dans la prière avec... ça, c'est moi, peut-être que vous ne le vivez pas comme ça, mais personnellement... Je vous l'ai dit souvent, c'est un domaine où j'ai beaucoup à grandir dans ma vie de prière. Et trop souvent, je vais dans la prière avec plutôt une espèce de sentiment de « j'espère que Dieu va m'entendre ». Ce n'est pas une pensée avouée, là, vous comprenez? Je ne me dis pas « j'espère que Dieu va m'entendre ». Ma théologie est plus solide que ça. Ça ne veut pas dire que mon cœur est plus solide que ça, par exemple. Et donc, il y a des moments où je souffre beaucoup, puis je le sais parce que moi, c'est différent. Hein? Quand je souffre énormément, je m'adresse à Dieu, puis généralement, ça va être père. Ça pourrait être papa, ça pourrait être n'importe quoi. Mais pour moi, c'est ça. Puis quand c'est père qui sort en premier, il y a de la souffrance dans mon cœur, puis j'ai besoin que mon père soit là pour moi. Et dans ces moments-là, j'ai jamais aucun doute qu'il m'entend. Mais bien souvent, je commence à prier, puis là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est la bonne manière, c'est la bonne formule. Là. S'il vous plaît, comprenez pas ça dans ce que je suis en train de dire. Je vais juste vous parler de ma réalité, mon expérience. Quand je me mets dans la prière, puis souvent ça va être mon Dieu, c'est comme si j'envoyais un fax au ciel. Les fax, vous connaissez ça? Ouais. Ok. J'envoie un fax, tu sais. Un courriel sur lequel j'ai peur de recevoir, hein, un courriel de réponse administratif, que ça ne s'est pas rendu. C'est bon? Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de lire Daniel, puis qu'on me rappelle. Que Dieu me rappelle, que Dieu me parle. J'ai entendu Dieu me dire, en étudiant cette prière de Daniel, qu'il entend instantanément chacune de mes prières. Parce que Daniel dit ici, lorsque tu as commencé, c'est Gabriel qui dit ça à Daniel en fait, lorsque tu as commencé à prier au verset 23, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Au moment où tu as commencé à prier, il y a quelque chose qui s'est passé au ciel. Parce que Dieu entend nos prières. En fait, les seuls moments dans les Écritures où il est dit que Dieu n'entend pas nos prières ou n'écoute pas nos prières, c'est qu'il va être dit, par exemple, je lisais ce matin Proverbe 28, Dieu va nous dire qu'à celui qui est profondément rebelle contre Dieu, sa prière n'est pas agréable à Dieu. Et donc, Dieu ne lui est pas favorable, Dieu n'est pas disposé à écouter, à prêter oreille à sa prière si je suis vraiment rebelle envers lui. Mais constamment dans les Écritures, il y a cette idée qu'il s'agit que notre cœur languisse après Dieu. Il s'agit qu'on appelle à Dieu. Il s'agit que je fasse entendre ma voix à papa. Puis tout de suite, il entend ma prière. Immédiatement. Vous dans le contexte immédiat. Et j'aimerais ça juste avoir un encouragement pour ceux qui ont des requêtes, des fois, qui durent depuis des années. Vous priez pour le salut de vos enfants, vous priez pour votre conjoint, vous priez pour des proches. Bien, remarquez bien c'est quoi le contexte de cette prière-là de Daniel. Il est en train de prier, je pourrais dire ça comme ça, pour le salut de son peuple. Il est en train de prier pour que son peuple soit sauvé de ce jugement de Dieu, de cet exil, et qu'il puisse retourner en Israël. Quand tu fais monter au ciel ta 100 000e prière pour le salut de tes enfants, de ton conjoint, pour tes proches, Dieu t'entend. Dieu t'entend et il t'écoute. Comme il a entendu Daniel à ce moment-là, instantanément, Dieu t'entend. Sois assuré de cela. Et Dieu aime ceux qui sont dans ce dialogue avec lui. On lit encore au verset 23, « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Daniel était de ceux qui aimaient Dieu. Je l'ai dit, il priait 3 fois par jour alors qu'il avait été déporté au début de son adolescence, probablement à peu près 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Peut-être plus jeune, peut-être un petit peu plus vieux, puis emporté loin de chez lui. Tout était là pour qu'il y ait une distance dans son cœur qui se fasse avec Dieu. Mais Daniel avait une passion profonde pour Dieu. Il aimait profondément Dieu. Il aimait le royaume de Dieu. Il languissait après la manifestation de la gloire de Dieu chaque fois qu'un roi le consultait comme conseiller, parce que c'était un des conseillers le plus sage, bien souvent, de ces différents rois-là qui n'étaient pas juifs. Chaque fois qu'il avait l'opportunité, il parlait de son Dieu. C'était la première chose qui venait sur sa bouche lorsqu'on le consultait, d'accord? Et donc, Daniel priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Daniel aimait Dieu et Dieu, en retour, aimait Daniel. L'ange Gabriel, c'est vraiment beau de voir ça, vient rencontrer Daniel et lui dit non seulement qu'il a entendu ses prières, que ses prières ont été entendues par Dieu, mais il dit, Daniel, tu es un bien-aimé. Tu es un bien-aimé de Dieu. C'est extraordinaire. Jésus nous dit dans l'Évangile de Jean, Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, sera un bien-aimé. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Un de ses disciples l'interroge. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Et Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Et Jésus est en train d'évoquer la venue de l'Esprit-Saint qui allait être donnée à tous ceux qui croiraient en Jésus-Christ comme sauveur. C'est donc notre privilège à nous, non seulement de savoir que nous avons été aimés de Dieu, mais de savoir que nous sommes aimés de Dieu. La parole de Dieu nous dit que celui qui a cru en Jésus-Christ, son esprit a été placé en nous. Et comme chrétien, c'est mon expérience. Quand je vous dis, j'ai des moments difficiles, puis le premier mot qui sort, c'est pas mon Dieu, c'est même pas Seigneur Jésus, c'est Père. Qu'est-ce qui fait que j'ai cette disposition dans ce moment où il y a de la souffrance, cette conviction profonde que mon Père céleste qui est là, qui m'entend, qui voit ma détresse, qui voit ma souffrance, c'est son esprit, c'est ce que dit sa parole. Son esprit est en moi et me rappelle que je suis un enfant de Dieu, que je suis un bien-aimé de Dieu. Et lorsque je vais dans la prière, lorsque je médite la parole de Dieu, lorsque je vais dans la prière, je vais dans la prière pour entendre ça de la bouche de Dieu aussi. Savoir que mon Père m'accueille, il m'écoute, il entend mes prières. Je prie au nom de Jésus-Christ, mais Jésus m'a dit, Vas-y, prie le pas à toi-même. Tu es son fils. Tu es son bien-aimé. Et cette prière-là de Daniel nous rappelle qu'au moment, où je lance une prière, Dieu m'entend. Et Dieu m'entend et m'écoute parce qu'il m'aime. Et ce matin, on va regarder une réponse que Dieu a faite à un homme de prière, d'accord? Lorsqu'on lit la prophétie assez étrange, c'est vrai, à partir du verset 23, Gabriel va donner, il va informer, il va instruire Daniel. Lorsqu'on répond ça, ça a l'air très, très, très bizarre. Puis honnêtement, c'est un des passages les plus difficiles à interpréter de la Bible, les plus mystérieux de la Bible, j'oserais dire, d'accord? Puis je lisais des commentaires bibliques, des gens beaucoup plus instruits que moi, érudits que moi, et ça revenait cette idée-là que c'est définitivement un des passages difficiles à interpréter. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est possible pour nous, lorsqu'on lit ce passage-là, de se dire « Boy, c'est compliqué tout ça, puis je ne sais pas qu'est-ce que moi je peux apprendre. » Parce que, qu'est-ce que je peux apprendre sur la réponse que Dieu donne à la prière? Dieu a envoyé un ange, l'ange Gabriel, pour répondre à Daniel. Alors, comment est-ce que ça peut s'adresser à moi, à moins que Dieu m'envoie un ange? Mais en même temps, vous allez voir, c'est une réponse qui peut sembler extraordinaire, mais en même temps, vous allez voir que cette réponse ressemble beaucoup, beaucoup, à bien des réponses que Dieu nous fait. Et donc, je crois que même à travers ce qui suit, on peut apprendre ensemble sur la prière et on peut vraiment être touché puis édifié, je vais le dire comme ça, par cette belle prophétie-là. Le Dieu qui répond toujours en son temps. Le Dieu qui répond toujours en son temps. Et donc, la première chose que Dieu dit à Daniel à travers cette réponse-là, c'est « Daniel, sois patient. » Parce que Daniel a lu les temps. Il a lu le prophète Jérémie. Il sait que ça arrive à son terme. Il a raison. Mais en même temps, Dieu a des desseins plus grands que ça. Et donc, la première chose que Dieu va dire à Daniel, c'est « Sois patient. » Ce que Daniel attend à travers cette prière-là, à travers son exaucement, à travers l'accomplissement de la prophétie, c'est la fin, le terme des souffrances de son peuple qui est en exil, d'accord? Ces gens-là sont littéralement des esclaves, des serviteurs de ces peuples qui les ont déportés, des esclaves qui peuvent avoir certaines libertés, entrer dans l'économie locale, puis tout ça, puis peut-être avoir des revenus, mais ils sont vraiment à la disposition de ces peuples-là. Et donc, Daniel languit après cette libération. Il veut voir son peuple être libéré. Maintenant, Dieu a en perspective une restauration beaucoup plus grande que celle que Daniel est capable d'envisager. Daniel, dans sa tête, il se dit, « Si mon peuple peut avoir la liberté de retourner en Israël, une fois qu'il va être revenu en Israël, on va reconstruire le temple, on va être libre de vivre notre vie. » Mais Dieu a en vue quelque chose, une bénédiction beaucoup plus grande que ce que Daniel serait capable d'imaginer, de concevoir à ce moment-là. Et c'est souvent le cas avec nos prières. C'est souvent le cas avec nos prières. On part de quelque chose qu'on vit, une expérience, des choses qu'on voit avec nos yeux, des besoins qui sont bien réels. Les besoins que Daniel exprimait étaient totalement réels. Et puis, on a une idée de ce que serait la bonne solution, le bon remède à ce mal-là. On sait comment ça pourrait se régler. Et donc, on demande à Dieu de faire ça. Mais bien souvent, ce que Dieu a en vue, c'est une bénédiction qui est beaucoup plus grande que celle-là. Et si je vous dis ça, comprenez-moi bien, parce que peut-être que vous êtes en visite ici, peut-être que vous êtes en train de chercher, puis vous êtes en train de vous ouvrir un peu au christianisme, tout ça, puis là, vous dites, bon, mais OK, le preacher en avant, il est en train de dire à ses bons petits croyants que faites-vous-en pas, si Dieu répond pas, il est plus sage, donc ça fait partie de la game, tout ça, puis c'est un petit peu de la pensée positive, tout ça. On est en train de se dire, ben écoutez, faut le voir comme ça, probablement que Dieu a de meilleurs desseins. C'est pas du tout dans cet esprit-là que je suis en train de vous dire ça. Lorsque je lis la Bible, puis j'apprends à connaître Dieu, je développe cette profonde conviction que souvent, Dieu a en vue de plus belles et plus grandes bénédictions que celles que nous désirons. Ça revient régulièrement à travers toutes les Écritures. C'est une réalité. Maintenant, écoutez, une partie de la prophétie qui s'en vient concerne Jésus-Christ, c'est clair, on s'en va là, ce ne sera pas long. Entre vous et moi, la bénédiction que Daniel demandait, comparez-la avec celle de ce que Jésus-Christ est venu accomplir. Laquelle est la plus grande? Est-ce que Dieu savait ce qu'il faisait en disant « J'ai une plus grande bénédiction encore qui s'en vient, Daniel? » Dieu savait ce qu'il faisait. Il voulait faire beaucoup plus que libérer le peuple d'Israël d'un esclavage physique. Il voulait les libérer d'un esclavage beaucoup plus grand que celui-là. Et donc, lorsque l'ange Gabriel commence à parler, voici ce qu'il dit. Il dit « À la fin de leur domination, je m'excuse ici, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. » Dans le fond, Daniel sait, il a compris à partir de Jérémie, 70 ans, ça va? Après 70 ans, retour de l'exil. Et il y a ce thème-là du 70 qui vient ici. Et donc, l'ange Gabriel, sans retourner sur cette question des 70 ans qui sont en train de s'achever, il s'en va tout de suite en lui disant, « Oui, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. Il y a d'autres temps qui s'en viennent, Daniel, encore. » Et la première chose que Dieu dit à Daniel, verset 24, 70 semaines ont été fixées. La première chose que Dieu dit à Daniel, c'est que Dieu a fixé les temps. Dieu a fixé les temps. Dieu est maître de la destinée d'Israël. On lit une prophétie comme celle-là, puis c'est comme obscur, hein? Puis tu essaies de comprendre tout ça, puis là tu dis, qu'est-ce qui est certain, qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui n'est pas clair. C'est un des passages qui a fait couler le plus d'encre par les chrétiens qui ont fait toutes sortes de projections, de conjectures pour dire, c'est ça qui s'est passé, là ça va continuer à se réaliser comme ça. Et puis on essaie de comprendre ce qui est là. Maintenant, regardez bien ce que l'ange Gabriel dit à Daniel, au verset 22. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Gabriel a été envoyé pour que Daniel comprenne. Puis nous, on est là depuis 2000 ans puis on essaie de comprendre. Est-ce que Gabriel a vraiment manqué son coup? Comme Dieu n'a pas envoyé le bon gars. C'est clair que Daniel devait comprendre des choses. Et ce que je veux faire avec vous dans les prochaines minutes, d'accord? Je veux vous demander d'envisager cette prophétie-là avec les yeux de Daniel. On est longtemps, quelques 500 ans avant la venue de Jésus-Christ, d'accord? Et donc, Daniel ne connaît pas Jésus de Nazareth, ne connaît pas ce qui va se passer, ne connaît pas la croix, n'a aucune information sur ça, sinon des prophéties qui sont assez obscures quand même, celle-là, mais plusieurs autres aussi dans l'Ancien Testament. Un Messie à venir, c'était clair, il y avait quelque chose qui allait venir, mais ce n'était pas plus clair que ça non plus. Qu'est-ce que Daniel avait à retirer de cette prophétie-là? Bien, premièrement, Dieu a fixé les temps. Dieu a arrêté les temps. Et c'est une des premières choses que nous, on doit recevoir de cette prière-là. Chaque fois que Daniel s'est retrouvé devant un roi, qu'est-ce qu'il a déclaré à ce roi-là? Dieu est le Dieu souverain. Chacun des rois païens, ce n'était pas des juifs, d'accord, qui ont découvert le Dieu de Daniel, qu'est-ce qu'ils ont dit sur Dieu en gros? Est-ce que vous vous rappelez comment ils l'ont appelé le plus souvent? Le Dieu suprême. Les rois païens ont parlé du Dieu de Daniel en parlant du Dieu suprême, celui qui préside à la destinée des hommes, à la destinée de l'humanité, celui qui élève les rois et abaisse les rois. Et donc, encore une fois, ce que l'ange Gabriel et ce que Dieu est en train de révéler à Daniel et que Daniel doit comprendre, c'est que les temps ont été fixés. Dieu préside à la destinée des hommes. Et les temps sont arrêtés. Les choses, les échéanciers de Dieu vont être entièrement respectés. Daniel est là, puis il est avec son peuple, il souffre de l'exil, il voit les prophéties, ça s'en vient, tout ça. Il s'en va dans la prière, il dit « Seigneur, honore ta parole, pardonne mon peuple, je sais qu'ils sont encore pécheurs, ils sont encore rebelles. » On sait, il y a même une bonne partie des Juifs qui ne voudront même pas retourner en Israël, parce que finalement, ils sont peut-être plus prospères économiquement là-bas, il faudrait qu'ils repartent à zéro, tout ça. Plusieurs vont rester, c'est vraiment pas tout le monde qui va retourner en Israël, d'accord? Donc Daniel est là avec ce peuple-là, puis il est en train d'intercéder. Puis l'ange vient puis lui dit, les temps sont fixés, Daniel. Les temps sont fixés. Tout ce que Dieu a promis, tout ce que Dieu a arrêté, va s'accomplir tel que Dieu l'a arrêté. Dieu va respecter chacun de ses échéanciers. Le Dieu suprême qui règne sur toutes choses. Et je veux apprendre cela, je veux entendre ça lorsque je vais dans la prière, lorsque je prie pour le salut de mes enfants, lorsque je prie pour le salut des gens dans ma famille, lorsque je prie pour la ville de Longueuil, lorsque je prie pour le Québec, lorsque je prie pour l'Amérique du Nord. On voit des bouleversements moraux absolument incroyables, puis on est là, puis on peut à quelque part s'inquiéter lorsque j'ai des nouvelles de problèmes de santé dans ma vie. Le Dieu suprême préside au destin des rois, des hommes, à mon destin, à moi. Et ces projets, ces échéanciers vont être entièrement respectés. Je n'ai pas à douter de cela. Maintenant, c'est quoi ces 70 semaines-là? Bien honnêtement, c'est assez complexe. D'arrêter qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici à travers 70 semaines, après ça 69, une dernière semaine, une demi-semaine aussi. Et comme je vous dis dans un premier temps, je vous demande de regarder ça avec les yeux de Daniel. C'est absolument impossible pour Daniel de comprendre exactement de quoi il en relevait. C'était pas possible pour lui de fixer des temps, d'arrêter du temps avec ça. Parce que ces semaines-là peuvent être des années, peuvent être des décennies, peuvent être des siècles. Ce que je comprends le plus clairement, c'est que Dieu est en train de démontrer simplement qu'il va y avoir des cycles dans l'histoire de l'humanité, des cycles qui vont faire un sens, où on va voir des choses s'accomplir, une espèce de pattern qui va se produire. Et comme on va le voir un petit peu plus loin, je pense qu'il y en a un qui s'est résolu avec la venue de Jésus-Christ. Il va en avoir encore qui vont venir. Un petit peu comme je vous disais il y a quelques semaines, où dans la littérature apocalyptique, dans le genre apocalyptique, bien souvent, il va y avoir des images prophétiques qui sont données, qui vont avoir plusieurs accomplissements. Qui peuvent trouver un accomplissement, puis ensuite de ça, un nouvel accomplissement. Et donc, je crois qu'on fait erreur si on tient à essayer de faire des calculs arrêtés. À tout le moins, dans la perspective de Daniel, ce n'était pas possible pour lui de faire ça. Et donc, je ne crois pas que c'est cela que Daniel devait retirer et comprendre premièrement. Ce qu'il devait comprendre, c'est que Dieu a fixé les temps, Dieu a arrêté les temps. Maintenant, Daniel a un paquet de choses à comprendre. Regardez le texte avec moi, s'il vous plaît. Verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Ça concerne le peuple de Dieu. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Daniel est en train de prier pour que Dieu restaure Israël, qu'ils puissent partir de leur exil, revenir à Jérusalem. Donc, il demande un pardon. D'accord? Il demande que Dieu pardonne. Ce que Dieu annonce, c'est beaucoup plus qu'un pardon ici. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Il est en train de regarder une bénédiction pour Jérusalem, pour son peuple. C'est de ça dont il est question ici. Pour expier l'iniquité, les fautes, les péchés du peuple et amener une justice éternelle. Quand Daniel est en train de prier pour Israël, Daniel est un homme sage, c'est un homme qui étudie l'Ancien Testament. Il connaît les cycles d'Israël. Si vous avez lu l'Ancien Testament, ça ressemble pas mal à nos vies avec des cycles. Puis, ça va bien, je marche avec Dieu, je me pète la baboune, puis, Dieu me laisse aller un peu, ça fait mal, je reviens, OK, Seigneur, je me rapproche de toi. Puis ça, c'est Israël, constamment. Boum, boum, boum. Qu'est-ce que vous pensez que Daniel a comme espoir lorsqu'il prie pour que son peuple puisse retourner à Jérusalem? Est-ce qu'il croit vraiment qu'à partir de ça, alléluia, tout va bien aller? Les Juifs vont juste être des bons, bons Juifs qui vont juste suivre la loi, puis tout va bien aller, puis il n'y en aura plus de punition. Au contraire, ce qui avait été annoncé, c'est ton peuple va pécher. Je vais les châtier. Ils vont se repentir. Je vais les bénir. Ils vont pécher. C'est ça qui avait été annoncé. Et là, tout d'un coup, Dieu annonce à Daniel, faire cesser les transgressions, mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener une justice éternelle. Éternelle. C'est inattendu, c'est inespéré pour le peuple d'Israël, une justice éternelle. Daniel pouvait comprendre ça. Il y a un salut plus profond qui va amener ce peuple-là à ressembler davantage à Dieu comme jamais dans son histoire. Comme jamais dans son histoire. Quelque chose qui va venir briser ces cycles-là de chute constante où le peuple se rebelle contre Dieu. Pour sceller la vision et le prophète, pour accomplir, hein, c'est un sceau, pour accomplir ce qui a été annoncé, pour oindre le Saint des Saints, cet endroit à l'intérieur du temple qui serait véritablement béni de la présence de Dieu. Donc Daniel sait qu'il y a une intimité avec Dieu, une présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël qui s'en vient comme jamais dans son histoire passée. Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie. Donc il est en train de dire, OK, Israël, Jérusalem va être reconstruit et puis il va y avoir un temps pour que ce sauveur-là, ce Messie-là vienne. Il va y avoir un temps qui va s'écouler entre les deux. Jérusalem va avoir besoin d'un sauveur qui va venir. Il va y avoir un temps après la reconstruction de Jérusalem. Jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Il y a encore de la souffrance qui s'en vient pour Israël. Jérusalem va être reconstruit. Il va y avoir un temps avant que le Messie s'en vienne. Dans des temps fâcheux, il va venir. Il va donc avoir encore de la souffrance pour Israël. Daniel pouvait comprendre cela. Il y a encore de la souffrance qui s'en vient pour Israël. Verset 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Le Sauveur qu'on attend va être retiré. Le Messie sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Imaginez un instant comment Daniel comprend ça. Il est en train de prier, il dit, ça s'en vient, Seigneur, je l'ai lu dans Jérémie. Mon peuple s'en retourne, on va reconstruire Jérusalem, ça va être génial. Puis là, Gabriel vient lui dire, oui, Daniel, c'est ça qui s'en vient. Puis après ça, le Messie va venir plus tard. Puis après ça, tout va être détruit encore une fois. C'est clair qu'il ne pouvait pas tout comprendre, ce que nous, on peut comprendre. C'est clair, c'est clair. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront. Je m'excuse. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Encore une fois, plus de sacrifices dans le temple. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et à la fin, Dieu va briser ce dévastateur-là quand les temps seront résolus, quand les temps qui ont été arrêtés par Dieu seront accomplis. En restant dans la perspective de Daniel, juste quelques minutes encore, avant de se tourner vers notre perspective à nous comme chrétiens. Très brièvement, qu'est-ce que Daniel peut comprendre? Daniel, sois patient. Sois patient parce que ce que tu as en vue n'est pas comparable avec ce que moi j'ai en vue. Tu comprends des choses en lisant les prophéties, c'est extraordinaire, c'est vrai. Il y a un retour de l'exil qui s'en vient. Mais moi j'ai en vue des choses plus grandes encore. Sois patient, mais ça ne s'arrête pas là. Daniel, continue, lis les prophéties, lis les saintes écritures, sois attentif et comprends. Comprends quoi? Comprends que Dieu préside à la destinée des hommes. La tienne, celle des rois, celle de ton peuple, celle de l'humanité. Dieu fixe les temps et Dieu n'est jamais en retard sur ses échéanciers. Sois attentif et comprends qu'une plus grande bénédiction, une plus grande délivrance s'en vient, où non seulement Israël sera délivré de cette emprise de ce peuple où il est, mais va être délivré de son péché. Un pardon des iniquités, une justice universelle s'en vient. Un Messie s'en vient. Mais encore beaucoup de souffrances s'en viennent. Les temps ne sont pas accomplis encore, Daniel. Et donc, sois patient. Sois attentif et comprends. Et Daniel est parti avec cette vision-là et il a continué à être un homme de prière. Je crois que c'est en gros ce que Daniel pouvait comprendre. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Et quel privilège de vivre plusieurs siècles après. Évidemment, dans une perspective chrétienne, quand j'ai le Nouveau Testament, l'explication la plus probable de cette prophétie-là, puis moi, je dis la plus probable parce que, je le répète, je crois que ce genre de prophétie-là apocalyptique a sûrement plusieurs accomplissements, d'accord? Mais quand même, nous qui vivons après la venue de Jésus-Christ, le plus probable de ce qui s'est passé ici, c'est qu'en effet, Jérusalem a été reconstruit. On le voit tout simplement déjà dans l'Ancien Testament avec Esdras, Néhémie, reconstruction du temple, tout ça. Mais il va venir un temps aussi où l'Empire romain va venir. Et qu'est-ce qui va se passer pour ce pardon des péchés, la fin des transgressions? C'est Jésus-Christ qui va venir, ce sauveur qui vient. Daniel ne pouvait pas voir ça. Mais comment est-ce qu'il pourrait y avoir une justice éternelle, sinon dans la personne de Jésus-Christ? Ce Messie qui vient, et je crois que c'est à ça qui est fait allusion ici, qui a été retranché aussi, en mourant sur la croix. Puis après sa résurrection, il n'est pas resté ici au milieu de nous. Il est monté auprès de son Père. Je crois que c'est ça qui est en train de s'accomplir ici, qu'on a vu s'accomplir. Maintenant, là, ça s'embrouille après un peu tout ça, d'accord? Il a été retranché, puis probablement la ville a été détruite, si on le sait, dans les années 70, après Jésus-Christ, sous Titus, l'empereur Titus, qui est venu détruire Jérusalem, détruire le temple. Et effectivement, les sacrifices ont pris fin à ce moment-là. En même temps, dans notre perspective, a-t-on besoin des sacrifices puisque Christ a accompli l'ultime sacrifice? Est-ce entièrement une malédiction ou une bénédiction? N'est-ce pas l'accomplissement de ce que Christ a fait en mourant sur la croix? Donc, probablement qu'on assiste ici à la deuxième, à cette nouvelle destruction-là de Jérusalem. Mais ça s'embrouille après tout ça parce que j'ai l'impression qu'on a aussi plusieurs antéchrists qui sont présents dans ce dévastateur-là. On a un dévastateur qui vient, peut-être que c'est Titus. Peut-être aussi qu'on a une image d'Antiochus Épiphane dont on avait parlé avant la semaine dernière. Peut-être qu'on a aussi plusieurs antéchrists qui viennent, comme on en voit dans l'Apocalypse, comme Jésus en annonce, comme Jean en annonce, jusqu'à, ultimement, le dernier antéchrist qui s'opposera à Dieu. Et c'est comme ça que je lis cette prophétie-là. Qu'est-ce que je peux apprendre, moi, sur la prière de cette réponse que Dieu a faite à Daniel? Aujourd'hui, vous allez prier Dieu. C'est presque certain que tout le monde ici dans la salle va prier Dieu un moment ou un autre. Chrétien ou non, il y a quelque chose qui va se passer, puis vous allez élever une pensée à Dieu. Si vous cherchez Dieu, Dieu vous entend instantanément. Dès que vous vous adressez à lui. Si vous aimez Dieu, si vous cherchez à le connaître, à marcher dans ses voies, spécialement si vous aimez son Fils Jésus-Christ, non seulement il vous entend, mais il vous écoute attentivement parce que vous êtes un bien-aimé. Maintenant, qu'est-ce que j'apprends de cette prière de Daniel sur ma vie de prière à moi? J'apprends à continuer à être patient. Parce que la vie chrétienne n'est pas toujours simple, puis on vit à une époque où ce n'est pas nécessairement tendance d'être chrétien, n'est-ce pas? Ce n'est peut-être pas trendy toujours d'être chrétien. On lit les temps, on lit les moments, on lit l'époque, puis on dit, je suis pas sûr que ça va être cool bien longtemps encore d'être chrétien. Ça l'est déjà pas toujours, mais attends tantôt. Je vais apprendre à être patient, à lire les prophéties, à lire l'Apocalypse, à être attentif et à comprendre. À comprendre que Dieu était fidèle, qu'il a envoyé son Messie, il est venu. Il a mis fin aux transgressions en apportant un pardon, une justice éternelle. À celui qui croit en lui, il est donné d'être pardonné entièrement, à jamais. Pour moi, les sacrifices ne sont plus nécessaires. On construirait le temple que j'en aurais pas besoin. Parce que mon temple, c'est Christ. Et plus loin encore, mon corps est maintenant son temple par l'Esprit qui habite en moi. J'apprends donc à être attentif, patient. Je comprends dans les prophéties qu'il y a des souffrances qui vont venir encore pour le peuple de Dieu. Mais Dieu a fixé les temps, ils vont venir. Et Dieu va régner et Dieu va être vainqueur. C'est ce que nous dit l'Apocalypse. J'espère que de lire la prière de Daniel 9 et de lire la réponse que Dieu a donnée à sa prière va vous aider à grandir dans votre vie de prière. Je vous donne encore ce devoir-là cette semaine, d'accord? Vous allez devoir lire aussi 3 autres chapitres. Je vous donne le devoir cette semaine de prier à la lumière de Daniel 9. J'ai le goût de vous dire, juste pour vous étirer un peu plus, priez à la lumière des versets 20 à 27 cette semaine. Lisez-les. Avant d'aller dans la prière, vous allez avoir beaucoup de raisons de louer Dieu et de rendre grâce parce qu'on voit dans ce passage-là des choses extraordinaires que Dieu a faites. Mais priez Dieu à partir de Daniel 9 avec cette conviction que Dieu vous entend. Et lisez les Écritures en cherchant à les comprendre, en acceptant qu'on ne comprend pas tout, en acceptant que Dieu fait les choses en son temps, mais qu'on a beaucoup à comprendre pour être très lucide dans notre époque et annoncer ce Sauveur merveilleux, ce Messie qui est venu mettre fin au péché. Amen. Puis entre-temps, lisez les chapitres 10 à 12, parce qu'on passe 3 chapitres dimanche prochain. On va prier. Éternel notre Dieu, on vient dans ta sainte présence encore ce matin. Et Seigneur, à l'instant même où on s'adresse à toi, nous avons cette profonde conviction que tu entends nos prières. Tu entends nos prières, Seigneur, et tu nous vois tels que nous sommes, mais non seulement tels que nous sommes. Si nous avons cru dans ce Messie, dans ce Sauveur qui est venu mettre fin au péché, apporter une justice éternelle, nous croyons que tu nous accueilles dans ta sainte présence, Seigneur. Que le regard que tu déposes sur nous est favorable, non à cause de notre propre justice, Seigneur, mais à cause de ta justice, Jésus. Seigneur, tu as été retranché. Tu as été retranché, mais tu règnes. Aucun successeur, Seigneur, n'a été mis à ta place parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Aucun successeur n'est nécessaire, Seigneur. Parce que tu règnes dans les cieux, tu règnes dans nos cœurs, Seigneur. Et bientôt, nous dit ta parole, tu reviens. Quand? En ton temps. Dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 100 ans, en ton temps, Seigneur. Comme tu le juges bon. Seigneur, ton évangile va continuer à se répandre dans les cœurs. Les hommes vont continuer à ruer dans les brancards. Il va y avoir des moments où le christianisme va être facile à vivre et accepter, d'autres moments, comme en ce moment, dans plusieurs pays, le christianisme sera persécuté, Seigneur. Mais tu règnes. Tu règnes, Seigneur, sur la destinée des hommes et tu sauves. Tu es majestueux, Seigneur. Ce matin, nous adorons le Dieu de Daniel, le Dieu suprême, que nous avons connu dans son Sauveur, dans son Fils, Jésus-Christ. Amen.